Bonjour David, bonjour à tous. Le lancement ce début de semaine à Bressuire de la semaine de l'enfance en Deux-Sèvres et en présence de Florence Dabin, présidente nationale du groupement d'intérêt public Enfance en danger. À Bressuire, des tarifs communaux vont subir des augmentations conséquentes dictées par des choix politiques mais surtout par la crise énergétique. Et c'est pour ces mêmes raisons que la commune de Mauléon a annoncé des mesures pour limiter la dépense énergétique. Tous les détails dans ce journal. Un concours de nouvelles va bientôt rendre son verdict sur le Touarcé. Le jury tranchera en effet le 25 novembre à venir. Et puis, la Ligue contre le cancer et le district de football des Deux-Sèvres mèneront une action conjointe le week-end à venir sur les cancers masculins. Quant à la météo, beaucoup de nuages au programme en Corse cet après-midi. La semaine de l'enfance a débuté donc lundi à Bressuire. 17 rendez-vous sont programmés d'ici le 20 novembre. 20 novembre, journée mondiale de l'enfance. Coralie Desnoux, présidente du département, a bien souligné à cette occasion que l'enfance était une priorité pour la collectivité. Vous avez pu l'entendre hier dans cette même édition. Elle avait à ses côtés Florence Dabin, présidente du conseil départemental du Maine-et-Loire et du groupement d'intérêt public Enfance en danger. Nous partageons la même vision moderne et concrète de la protection de l'enfance, ont indiqué les deux élus qui font face aux difficultés du secteur. Confronté lui également à des problèmes de recrutement. Dans notre département, 700 agents travaillent à la direction de l'enfance et de la famille et la quarantaine de recrutements opérés ces derniers mois suffisent à peine et pourtant ce sont de beaux métiers. Florence Dabin tient cependant à rester positive sur le sujet. Elle est au micro-colline de Fabien Gazot.
Il faut être positif d'abord parce qu'on le doit à ses enfants d'être positif. Ils ont des yeux qui ont besoin d'être éclairés et c'est vrai que plus on aura envie et plus on parlera positivement des métiers de l'humain, c'est-à-dire accompagner ses enfants, montrer à quel point on a réussi dans ce parcours à faire en sorte qu'ils soient épanouis dans leur vie d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Plus on donnera envie aux uns et aux autres de devenir assistant familial, de devenir éducateur, de devenir pédopsychiatre. L'essentiel, c'est se dire qu'un métier comme celui-ci, c'est un métier passion, vocation, et quelle satisfaction de se dire à la fin de la journée, j'ai donné du bonheur, j'ai permis à ses enfants d'être heureux, et puis par ricochet, quel bonheur pour nous en tant qu'adultes d'avoir été utiles.
Cet après-midi, à Mel, de 14 à 16 heures, cette semaine de l'enfance s'intéressera à l'impact des écrans sur le développement du jeune enfant. À Niort, les élus ont posé la première pierre en ce début de semaine de la future résidence Habitat Jeune qui ouvrira au printemps 2024 au cœur du quartier du Clos Boucher. Elle regroupera deux structures déjà existantes, l'Atlantique et la Roulière, soit 165 logements dédiés aux jeunes de 16 à 25 ans qui commencent un emploi, un stage ou encore un apprentissage. À Bressuire, certains tarifs communaux vont connaître des augmentations très conséquentes. Habituellement, les délibérations qui entérinent ces tarifs communaux se traduisent par des discussions mineures, ce sont des affaires courantes, comme l'on dit couramment. Sauf que cette année, la crise énergétique impacte directement. Explication avec Jean-François Moreau, adjoint au maire, notamment en charge des finances.
Cette année, on a décidé d'appliquer deux taux, un taux de 2% qui s'applique à la quasi-totalité de nos tarifs. Et puis quand il y a un petit peu de choses liées à l'énergie, ben, on a appliqué 4%. Donc c'est plutôt sur la partie salle des fêtes. Puis après, ben, on a des tarifs très particuliers, vraiment liés à l'énergie, où là, on a appliqué des augmentations un peu plus importantes. L'installation des forains, par exemple, où on leur fait payer le branchement électrique. Et donc là, on va leur faire payer quasiment au coût réel d'à peu près 60%. Alors sur le marché couvert, on va appliquer une augmentation des tarifs plus faible d'à peu près 10%. Ça nous coûte en réalité beaucoup plus que ça, parce qu'on sait que l'énergie augmente de manière importante, mais on veut quand même avoir un effort pour pouvoir maintenir ces commerces, leur permettre d'être là tous les mardis, tous les samedis, donc on applique une augmentation plus faible.
Un vrai choix politique donc, sachant que malgré ces fortes augmentations, la ville supporte une partie du surcoût et les élus doivent faire un effort de pédagogie concernant le coût du service public. Emmanuel Ménard, maire de Bressuire, également au micro-colline de Fabien Gazot.
Je le disais en réunion publique, nous faisons le dos rond pour le moment parce que nous avons une situation financière saine, mais qui malheureusement, compte tenu de tout ce que nous vivons aujourd'hui, est très fortement impactée. Donc là, nous pouvons tenir encore et faire cette offre de service pour la population bressuraise, mais j'espère que cela ne durera pas trop longtemps. Et il est certain que les habitants ont tendance à voir le service rendu, mais à ne pas connaître, mais aussi par notre faute, hein, nous parlons en général des déficits à l'année, etc. Mais lorsque l'on en est à se dire, ben, mon ticket d'entrée, il est de 4 euros, mais normalement, il devrait être de 22, ben là, on prend conscience réellement de ce que prend à sa charge la collectivité.
Emmanuel Ménard, maire de Bressuire, à propos des tarifs communaux votés en conseil municipal lundi soir, tarifs impactés par la crise énergétique. À 22h30, on coupera l'électricité dans les salles omnisports comme au stade. Tant pis pour les petites habitudes des uns et des autres, contrariés par ces changements. Le maire de Mauléon n'y va pas par quatre chemins en présentant le plan de sobriété énergétique de sa commune. Vous l'avez compris, l'heure est aux économies d'énergie et la prise de conscience doit être collective, insiste la municipalité. Si la commune n'a pas attendu la crise pour mettre en place un programme d'économie, rénovation énergétique et modernisation de ses éclairages, les élus veulent aller encore plus loin, comme nous l'explique la première adjointe Claire Pollic au micro-colline de Jacqueline Pinon.
Sur l'éclairage public, donc, nous allons à partir de la mi-décembre encore réduire un petit peu donc, les durées d'éclairage. 80% du parc lumineux sera coupé à 21h et les 20% restants seront coupés donc, à 23h. Et l'allumage du matin se fera à partir de 6h30. Donc 6h30, c'est surtout pour les enfants qui rejoignent les points d'arrêt pour les transports scolaires. Voilà pour l'éclairage public. Sur le patrimoine bâti, donc là, nous sommes engagés sur des rénovations globales performantes. Nous avons 4 opérations sur Mauléonville où là, on aborde effectivement la question du bâtiment dans sa globalité pour faire en sorte que le bâtiment soit beaucoup moins énergivore.
Vous insistez aussi sur la prise de conscience nécessaire du particulier.
C'est pour ça qu'on est sur une communication ensemble, économisons l'énergie, puisque effectivement, donc, il y a la collectivité, les élus, les agents, mais aussi les usagers, par exemple, de nos salles omnisports, des bâtiments qu'on peut mettre à disposition d'associations. Donc c'est de rappeler qu'on est tous acteurs de ces économies d'énergie que l'on doit faire.
Parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec un parc immobilier d'une centaine de bâtiments et 68 postes d'éclairage, le budget de la collectivité alloué au chauffage et à l'éclairage, qui s'élève actuellement à 220 000 euros, devrait augmenter d'environ 150% cette année et tripler à partir de 2023 pour atteindre possiblement les 800 000 euros, préviennent les élus. Il faudra aussi mettre une épaisseur de plus. La température sera de 15 degrés dans les salles omnisports, 19 dans les bâtiments administratifs de culture et de loisirs et 20 degrés dans les locaux liés à la petite enfance. Et puis, puisqu'il faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, l'extinction des lampadaires la nuit va participer à la préservation de l'environnement. Le conseil municipal de Cholet a observé une minute de silence lundi soir à la mémoire de l'ancien maire de la ville, Maurice Ligaud, décédé le 29 octobre dernier. Rappelons que ce dernier avait dirigé la ville pendant 30 ans, de 1965 à 1995, et avait été élu député de la circonscription de 1973 à 2002. L'actuel premier magistrat, Gilles Bourdoulex, a proposé lors de cette séance lundi soir que l'Assemblée municipale émette un vœu pour que le centre hospitalier de Cholet prenne le nom de Maurice Ligaud, un souhait qui a été voté à l'unanimité, mais ce sera au conseil de surveillance de l'hôpital de le valider ou non. Le parc du Futuroscope a remporté l'année dernière en Floride la plus haute récompense de l'industrie du divertissement mondial. L'attraction Chasseur de Tornades, dernière née des créations du parc, a reçu le très convoité The Award from Outstanding Exhibition, autrement dit le prix de la meilleure attraction au monde. Le prix sera d'ailleurs officiellement remis aux dirigeants du Futuroscope le 15 avril 2023. À Thouars, la deuxième édition du concours d'écriture est lancée. Écrire une brève histoire sur 3 pages pour mettre en scène le Thouarsais, c'est l'objet du concours de nouvelles lancé l'an dernier par la Société d'histoire de Thouars, la CHAPT. Pour cette deuxième édition, le comité de lecture examine les copies rendues. C'est le cas de Baptiste Sébron qui livre ses premières impressions sur ce second cru au micro-colline de notre correspondant en Thouarsais, Dominique Hérault.
Cette année, nous avons reçu 25 nouvelles contre 47 l'an passé. Les gens ont peut-être moins accroché parce qu'il n'y avait pas l'effet Covid. Donc, la première édition, il y avait du confinement ou des heures de couvre-feu. Donc, peut-être que les personnes avaient plus de temps pour écrire. Voilà, il y avait peut-être une restriction au niveau du thème qui était centré sur Thouars et sur un univers, sur un monde médiéval. Je pense que le sujet était peut-être un peu resserré et donc ça méritera un ajustement pour la prochaine édition. Moi, j'en ai lu à peu près la moitié. Je suis assez satisfait satisfait, même si j'attends encore le coup de cœur pour la dernière moitié. Pour moi, une nouvelle réussie, c'est une nouvelle dans laquelle il y a une chute. Une chute, par essence, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Il faut que ce soit bien écrit, il faut qu'il y ait des personnages qui soient attachants, ce qui est d'autant plus dur dans une nouvelle, dans le sens où c'est très court.
Le jury délibérera le 25 novembre sous la présidence de Teresa Revet, prix Historia 2024. L'actualité sportive pour le compte du championnat de Pro A de tennis de table, la Romagne est en déplacement ce mercredi à Hennebon. Actuel second classement, les Romagnons iront affronter les quatrièmes. Le FC Nantes ne pourra pas compter sur sa tribune Loire pour le barrage retour de la Ligue Europa face à la Juve le 23 février 2023. Le match allait ayant lieu le 16. Elle sera en effet fermée sur décision de la commission de discipline de l'UEFA qui avait sanctionné Nantes d'une fermeture partielle de cette tribune avec sursis le 4 novembre dernier après usage d'engins pyrotechniques contre Fribourg le 13 octobre. Le football club de Nantes a décidé de faire appel de cette décision. Une opération conjointe menée par la Ligue contre le cancer, le district de football des Deux-Sèvres, le week-end à venir, les 19 et 20 novembre. Il s'agit à la fois de collecter des fonds, mais aussi de sensibiliser les footballeurs, les dirigeants et les supporters sur les cancers masculins. Le district a accepter de jouer le rôle. Explication de son président, Daniel Guignard.
Là, ce que nous allons faire, nous allons envoyer à tous les clubs du département un petit courrier en leur demandant s'ils souhaitaient participer à cette opération, et si oui, soit à l'entrée, soit à la buvette, ils mettent une cagnotte. Quand on peut aider une association de ce type, on est présent parce que nous sommes tous concernés par ce type de situation.
Après Octobre Rose, le mois de novembre consacré au cancer masculin, prostate et testicule, n'en demeure pas moins important, sachant que le seul cancer de la prostate touche 50 000 hommes par an, dont 350 en moyenne en Deux-Sèvres. Philippe Barbotte, vice-président de la Ligue contre le cancer en Deux-Sèvres.
Et nous souhaitons montrer que aussi au mois de novembre, on peut faire quelque chose pour les cancers plutôt masculins. La recherche est quelque chose d'important et cette action menée avec les clubs que l'on invite bien évidemment à faire un don au profit de la Ligue contre le cancer, afin qu'elle puisse, elle, financer des programmes de recherche. À titre d'exemple, dans notre département cette année, nous allons pouvoir reverser à la Ligue nationale et également des chercheurs de notre région la somme de 350 000 euros, ce qui n'est pas banal pour un petit département comme le nôtre. Cette somme va à différents programmes, que ce soit pour le cancer de la prostate, le cancer du sein, d'autres formes de cancer, les cancers pédiatriques aussi. Voilà, cet argent est bien ciblé par rapport à des programmes de recherche qui nous sont présentés, qui sont validés par un conseil scientifique composé de médecins.
Et cette action conjointe de la Ligue contre le cancer et le district de football des Deux-Sèvres est donc prévu le week-end prochain, les 19 et 20 novembre, sur les terrains de foot du département.